When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous présente l'histoire de Gillian. Gillian nous raconte comment sa copine s'est retrouvée enceinte alors qu'il n'avait que 15 ans, pourquoi et comment ils ont décidé de garder cet enfant alors qu'ils n'étaient encore eux-mêmes que des enfants, et comment il s'est lancé dans une mission pour subvenir aux besoins de la famille alors qu'il n'avait même pas l'âge légal pour travailler. Il raconte aussi comment, 10 ans plus tard, pour la naissance de leur deuxième enfant, il a décidé de s'occuper de ses mômes à la maison pendant plusieurs mois, alors que sa douce, comme il appelle sa compagne, retournait, elle, au travail. Il nous explique comment cette période a mis un coup sur la tête à son modèle un peu à l'ancienne, où le père était censé aller chasser le mammouth pour nourrir femme et enfant. Gillian nous livre ici un témoignage plein d'amour et plein de tendresse. Un immense merci à lui d'être venu se confier dans mon podcast. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré, partagez cet épisode à quelqu'un que vous aimez et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma newsletter. J'adore pouvoir vous écrire régulièrement. Bien sûr, tout ça est gratuit. Je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Mais en attendant, voici notre discussion avec Gillian.
Bon, on est avec Gillian. Salut Gillian. C'est Gillian. En fait, pas du tout Gillian. N'importe quoi.
Ouais.
Je te demandais en plus il y a deux minutes, mais n'importe quoi, le mec a totalement, complètement perdu les pédales. J'espère que tu vas bien, Gillian.
Ben oui, ça va très bien, et toi?
Ouais, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir envoyé un mail. Tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois, et en fait, tu vis pas en région parisienne, si je me trompe pas, tu vis dans l'Oise, c'est ça?
Dans l'Aisne, juste à côté, t'es pas loin.
Dans l'Aisne. Tu vas nous expliquer un petit peu ta vie, ton œuvre de daron, mais l'un des trucs, moi, qui m'a fait tilt, c'est que tu as été papa, alors techniquement, la veille de tes 16 ans.
C'est ça, c'est ça.
Fou.
Ouais, comme tu dis, ouais.
Donc, t'as quel âge aujourd'hui? T'as 26 ans,
c'est ça? J'ai 26 ans, c'est ça, ouais.
Donc, ça veut dire que t'as un enfant qui a
10 ans.
10 ans, à l'âge de 26
ouais,
ans.
C'est ça. C'est ça.
Je sais pas si, toi, dans ta tête, avant cette naissance-là, t'avais en tête déjà d'être papa un jour?
Alors, pas du tout, vraiment, parce que, pour te dire, alors je trouve qu'on a été relativement sage, parce qu'avec ma conjointe, avec qui je suis toujours d'ailleurs, là, à l'heure actuelle, on a été très patient donc, dans notre relation, même au début, on ne s'est pas précipité.
Okay.
Et en fait, c'est au bout de, du coup, à peu près un an qu'on a su qu'elle était enceinte.
Comment ça?
Donc, après un an de relation, elle
D'accord.
m'a dit je suis enceinte. Donc, parce qu'on a été très patient dans tous les sens du terme. Si tu
okay.
vois ce que je veux dire.
Vous étiez tout jeune?
On était tout jeune, du coup. Voilà, on était tout jeune. Moi, je venais d'avoir mes 15 ans et elle me dit voilà, j'ai un problème, il y a un retard quelque part, il faut que je fasse un test. Et puis, le test, il n'a pas loupé, pas de surprise positive. Donc elle me pète, je suis enceinte.
D'accord.
Sur le coup, je m'en souviendrai assez longtemps. Je me souviens exactement de l'endroit où j'étais quand elle me l'a dit. Sur le coup, vraiment pas bien. Je fais demi-tour pour rentrer à la maison pour tout de suite en parler à ma mère à l'époque. Parce que sur le coup, on a 15 ans, on sait pas quoi faire, on est au collège, lycée, on se dit c'est pas le moment quoi techniquement.
Ouais.
Donc dans un petit coin de la tête, il y a quand même quelque chose qui dit finalement est-ce qu'on va commettre cet acte de l'avortement après ça c'est chaque en son avis dessus. Mais. Mmh. Du coup, moi, c'est demi-tour, direction maison, pour en parler tout de suite à ma mère, avec qui j'étais très fusionnel à l'époque. Et elle qui me dit, faut pas prendre de décision hâtive, faut réfléchir, en sachant que du coup, il y avait l'échographie qui était passée par ma conjointe. Voilà, c'était l'avortement, on était plus du côté avortement que du côté on garde. Et en fait, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit appelle Jessica, le prénom de ma conjointe.
Okay.
On va discuter, on va se poser, faut pas se précipiter, en sachant que du coup, le rendez-vous pour l'avortement était pris, c'était le lendemain, c'était très rapide. Et en fait, le temps de la discussion, moi j'ai laissé ma mère et ma conjointe discuter. Moi, j'en ai parlé avec mon père qui lui était un peu mitigé. Je me souviens qu'à l'époque, il n'était pas content, mais une heure après, il partait chercher la bouteille de champagne. C'était très, très spécial.
Okay.
Et après discussion, en fait, le lendemain, on n'est pas allé à l'hôpital.
Okay.
On s'est dit, on a su le faire, on va l'assumer, on est bien entouré et on va assurer, quoi.
D'accord.
Voilà.
En une journée, quoi, c'est ça? En une soirée?
Quasiment, ouais, c'est ça. Hein. C'est en une après-midi, le temps d'une après-midi, d'une soirée, c'était fait, quoi. Quasiment, c'est ça.
Waouh. Très bien. Et ça paraît tellement simple quand tu l'exprimes comme ça.
Oui, parce que alors je suis très mauvais en mémoire, mais je saurais même pas dire les émotions que j'ai eues parce que je suis pas sûr de m'en souvenir et je suis quelqu'un de base de très je veux pas dire insensible, mais je suis très froid, on va dire très froid.
T'es
genre, je sais garder mon calme.
Tu n'es pas un robot, Gillian, c'est faux.
Oui. Mais je sais garder mon sang-froid, on va dire. Je sais, voilà, j'ai un self-control qui parfois peut être un peu trop exagéré, même dans certaines situations. Mais voilà, je sais que j'ai pas paniqué, je sais que j'ai pas eu. Dans mes souvenirs, j'ai une réaction, très. Je sais pas, très maîtrisée, j'ai l'impression.
Okay.
J'ai 15 ans, j'ai pas eu de. Pas d'excès, pas de, d'excès de joie, pas d'excès de panique, pas de tout ça.
Et à l'intérieur de toi, parce que peut-être que tu montres pas, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, t'es aussi serein que ce que tu montres à l'extérieur ou...
À l'intérieur de moi, c'est un peu mitigé parce que on a que 15 ans, j'étais un peu perdu parce que je savais que j'étais bien entouré. À l'époque, ce qui a fait que j'étais rassuré, c'était surtout la présence de ma mère, parce que je sais qu'elle serait là pour nous. Son compagnon de l'époque aussi, parce qu'on y était très attachés.
Ouais.
Et que, on avait 15 ans, je savais que moi, de mon côté, j'ai eu un déclic tout de suite, que je ferais ce qu'il fallait. J'étais en mission, quoi. À partir de ce moment-là, il fallait que je fasse ce qu'il faut. Je savais que, du coup, après, avec le temps, quand il y a eu les échographies, où on dit c'est pour tel mois, je savais qu'à partir du moment où j'avais 16 ans, c'était l'âge légal pour travailler, qu'à partir de là, ma mission, ça serait de trouver des petits boulots et puis de subvenir aux besoins de ma future famille, quoi.
Mais alors, c'est fou parce que tu expliques ça en disant c'est ma mission, etc. Mais même si tu avais 16 ans, tu étais encore un môme, quoi. Tu vois, à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais « Je joue encore aux jeux vidéo, j'ai 26 ans, je suis jeune, je suis encore un môme. » Bah oui, mais en fait, tu devais l'être encore plus quand tu avais 16 ans, quoi, non?
Ouais, bah oui, bah c'est, je me souviens en plus, c'était l'année d'avant, par exemple, j'avais le bras cassé, je faisais du skate, je suis retombé sur mon plâtre, c'était reparti, je faisais des conneries d'ado, quoi, comme tout le monde. Mais voilà.
Et comment dire, le fait de prendre cette décision-là, ce jour-là, de te dire, ok, en fait, ce bébé, on va le garder et on va faire en sorte de l'avoir et de l'avoir bien, t'as switché, quoi.
C'est ça, c'est un déclic, c'est un déclic, c'est une étincelle dans la tête qui, voilà, c'est en fait l'élément déclencheur, c'est ma mère. Je savais qu'elle serait là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui m'a totalement rassuré. Le fait qu'elle soit là, que son compagnon de l'époque aussi. En fait, j'avais pas spécialement d'inquiétude.
D'accord.
À ce moment-là. Et okay. Après, je savais qu'en plus, on avait tout le temps de la grossesse pour se préparer, pour tout ça.
T'as l'air d'être tellement serein quand tu racontes ça. On avait tout le temps de la grossesse pour se préparer. Mais attends, ta vie, du jour au lendemain, elle est bouleversée de ce fait-là.
Oui.
Parce que je parle même pas de, du fait de, d'avoir cet enfant, de, c'est-à-dire qu'il est né. C'est juste, j'imagine que quand ça te tombe comme ça dessus, t'es encore lycéen, t'arrêtes tes études, c'est ça? Ou qu'est-ce qui se passe?
Alors, j'arrête pas totalement, en fait, à partir de là. Mon père a toujours travaillé dans la restauration. Et ma première idée, c'est ça, c'est voilà, papa piston, est-ce que t'as pas moyen de me trouver un truc en apprentissage qui me ferait gagner un minimum d'argent pour pouvoir subvenir au minimum vital pour mon enfant, pour ma fille et pour ma femme, quoi. Et du coup, il me trouve un apprentissage en restauration, donc dans une grosse brasserie de là où j'habite. Je t'avoue que sur le coup, j'ai vite lâché parce que c'était l'usine, quoi. C'était la grosse brasserie. Ça tourne à fond. Il n'y a pas de considération. C'est vraiment, on est des. Je ne voyais pas ça comme ça. Et dans la foulée, je trouve un autre resto plus petit, plus familial où là, ça se passe bien. Mais au bout de quelques mois, le patron me dit la restauration, c'est pas fait pour toi.
Ok.
Donc parce que en fait j'étais trop détendu, pendant les services, j'étais la déconne un peu avec le client, peut-être un peu trop loin à prendre des commandes. Quand je dépose le plat, les petits mots, et puis peut-être des fois c'est un peu trop long aussi, je sais pas. Et il m'a dit la restauration c'est pas fait pour toi, faut que tu aies du contact avec les gens, mais pas en restauration. Et ça va pas.
Ok. Et donc tu fais quoi après? Parce que t'as quel âge? Donc quelques mois plus tard, donc t'as toujours 16 ans, quoi.
Ouais, j'ai toujours 15 ans, ouais. Du coup, en fait, à partir de là, en gros, j'attends la naissance. Donc, j'attends la naissance. Quand je te dis ça, c'est que y a pas d'autre opportunité qui s'offre à moi. Vu que j'ai plus d'entreprise, du coup, le CFA c'est fini, on va dire. Et du coup, j'attends la naissance et mes 16 ans aussi, du coup, parce que je sais que 16 ans, c'est l'âge légal pour travailler, pour pouvoir avoir un contrat au minimum, un CDD ou quoi que ce soit, voilà, avoir un contrat en tant qu'adulte, on va dire.
Ok.
Et du coup, voilà, j'attends la naissance.
D'accord. Juste avant l'interview, je t'ai dit, t'es mon premier jeune papa, mais c'est une énorme connerie. Parce que il y a l'histoire de ce mec qui s'appelle Mario, qui a eu deux jumeaux en Colombie, si tu veux, dans son pays natal, quand il avait 15 ans. Mais à la différence de toi, c'est que lui ne le savait pas. Il a appris 15 jours avant qu'il allait avoir des jumeaux. Petit aparté pendant le montage. À ce propos, si vous souhaitez écouter l'histoire de Mario, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Je vous invite vraiment à l'écouter. Elle est tout à fait particulière.
Ah oui.
Voilà, parce que en gros, dans ce pays, la fille est tombée enceinte et ils l'ont, la famille l'a extradé, en fait, ils l'ont caché, quoi. Donc, et lui, il savait pas du tout. Donc, si tu veux, il a une histoire pour pareil. Il a été papa très tôt aussi, comme toi, mais il a pas du tout suivi l'histoire. Il s'est retrouvé un peu face au fait accompli, si tu veux. Donc. En ça, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu comment toi tu vis cette grossesse-là alors que t'es encore 15 ans, quoi.
Alors la grossesse, elle s'est très bien passée. Donc en fait, il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu de tout ça. Et le fait d'être bien entouré, en fait, on l'a bien vécu finalement. Les seuls souvenirs où vraiment j'ai eu des gros coups de pression, c'était sur la fin. Où il commençait à y avoir des contractions, où là, à partir de ce moment-là, là, je me disais, mais en fait, t'es pas prêt, mon pote. où quand il fallait l'amener à l'hôpital, donc forcément, moi, je pouvais pas l'amener, donc on demandait à mon beau-père qui était toujours là, qui était toujours très, très serviable et qui était toujours là quand il y avait besoin. Et on montait en voiture et on se disait, peut-être, je sais pas, dans 5, 10, 12, 15 heures, le bébé sera là, quoi. Donc, et là, ça mettait des gros coups de pression. Et quand on rentrait à la maison, qui nous disait, c'est pas pour maintenant, je t'avoue qu'il y avait une grosse bouffée d'air qui se prenait et un petit ouf de soulagement, en sachant que du coup, c'était pas maintenant, mais ça allait pas tarder, quoi.
Donc, c'était que reculer pour mieux sauter.
Voilà, c'est ça.
C'est quoi les souvenirs que t'as de cette grossesse en particulier?
Cette grossesse en particulier, c'était vraiment, moi j'ai un souvenir de liberté, en fait. On était tous les deux, on était très entourés, mais Je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, c'est une période que j'ai aimée plus que tout parce que on faisait ce qu'on voulait. Voilà, je sais pas comment dire. C'était les premiers instants où vraiment on était à deux. Ça se concrétisait parce qu'il y avait le bébé et c'est ce moment-là où je me disais c'est de toute façon pas le choix, c'est la femme de ma vie. Et tous ces petits moments où les petits caprices. Alors il y a une petite anecdote assez drôle, que je m'étais cassé le talon. Par ailleurs, j'ai une bêtise d'ado avant d'apprendre la grossesse, donc j'étais en béquille. Et un soir à 23h, madame se décide à d'avoir envie de chips au fromage.
Le cliché,
en fait, non, mais vraiment, c'est fou. Hein, mais voilà, et du coup, la seule épicerie dispo, on va dire, qui était relativement pas loin, en fait, elle était à, 500 mètres dans une rue où il fallait monter, c'est relativement raide. Ouais. Donc, en béquille, je suis allé chez des chips au fromage avec madame pour subvenir à son envie. Elle a eu beaucoup d'envie pendant cette grossesse, des envies différentes, des liégeois au chocolat. Des clémentines, des oranges, du sirop de citron, voilà, toutes ces envies-là, c'est des trucs qui me resteront. Et je sais pas comment l'expliquer, cette sensation de liberté, mais je sais pas comment l'expliquer. Je me sentais vraiment bien. On pouvait faire n'importe quoi, je me sentais bien, je savais que ça allait aller.
Ok. Et ça se passe bien entre... Pardon.
Une béatitude, on va dire. Je sais pas comment, si le mot est exact et bien utilisé, mais c'était un peu, la vie est belle, tout va bien, voilà.
Ah, c'est cool. Et entre vous, tous les deux, ça se passe bien? Parce que, bon, l'air de rien, peut-être vous connaissiez depuis un an, mais vous étiez encore sacrément jeune, quoi.
Ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien. En fait, je pense que ce qui nous a aidé, c'est de, justement, pas se précipiter au début, de pas brûler d'étapes, de beaucoup parler, de pas se voir beaucoup, parce qu'on se voyait pas beaucoup non plus, en fait, au début. Parce qu'elle était en CFA à Lens, moi j'étais à Saint-Quentin, donc c'est une distance, je dis ça comme si tout le monde allait savoir ce que ça représentait. Il y a 50-60 kilomètres qui nous séparent, donc c'est pas énorme, mais on peut pas se voir tous les jours, on peut pas se voir toutes les semaines non plus, parce que c'est pas forcément possible. En fait, le fait de beaucoup parler, que ce soit par message, par téléphone, on apprend à mieux se connaître. Je pense que si on se voyait tout le temps, tous les jours, à brûler des étapes, je pense que c'est ce qui nous a aidé.
Très bien. Comment se passe l'accouchement, mon beau Gillian? Parce que la bouffée d'air, là, c'était bien, mais il y a bien un moment donné où il faut que cet enfant sorte, tu vois. Il faut qu'il
vienne. Il est sorti. Alors ça, c'est un des regrets que j'ai. C'est que j'ai pas été à la hauteur, ce jour-là. Donc, on est arrivé à l'hôpital un midi. C'était vers midi. Parce que les contractions s'étaient rapprochées. Et là, on savait en arrivant que, là, on n'avait plus trop de doutes. On savait que ça allait être pour maintenant, que ça allait pas tarder. Que c'était, si on allait à l'hôpital, on repartait avec le bébé. Quoi. Donc, le 22 novembre, on va à l'hôpital vers midi. Donc, grosse séance de travail, on marche, on va prendre une douche, le ballon. Puis, plus le temps passait, plus le moment s'approchait. Et plus moi j'avais la boule au ventre qui grossissait, y a ma famille qui arrivait donc dans l'enceinte de l'hôpital, avec mon beau-père qui a commandé des pizzas, qui s'est fait livrer des pizzas dans l'hôpital, c'était du grand n'importe quoi. Mais les sages-femmes qui étaient très accueillantes, qui étaient très ouvertes, on n'avait pas le droit, mais il l'a fait, puis elles ont dit c'est pas grave, faut laisser ça propre, faut laisser l'endroit propre et ça ira. Il y avait tout le monde, il y avait mon beau-père, ma mère, mes deux frères qui jouent aux cartes dans la salle d'attente. tout le monde était derrière nous, c'était comme un match de foot. Il y avait des supporters qui étaient là.
C'était le premier enfant de la famille ?
Non. Okay. Moi j'ai des frères et sœurs qui sont plus vieux, qui ont des enfants. Mais moi je suis le petit dernier de la famille, donc c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Je jouais aux cartes et on se relayait. En fait, moi j'allais voir ma Alors, je l'appelle ma douce, de l'habitude.
Ok, bah,
je sais pas si je peux le faire là. Ouais.
Ah bah, n'hésite pas.
J'allais voir ma douce de temps en temps. Ma mère y allait aussi quand elle était en salle de travail. Pour, voilà. Et donc, quand ça allait commencer vraiment, c'était ma mère qui était dans la salle de travail. Donc, elle est arrivée en courant. Elle m'a dit, c'est maintenant, il faut que tu y ailles. Et en fait, il y a eu des petites complications très graves, mais des complications qui m'ont fait que bon, j'ai un peu tourné de l'œil et qui m'ont forcé à sortir de la salle d'accouchement. Et ma mère a dû aller prendre le relais et moi j'y suis allé ben, quand le bébé était sorti. Quoi.
Ok, mais bah, c'est tu dis que t'étais pas à la hauteur, mais bah, c'est des choses qui arrivent, non?
Ouais, bah, je sais pas. Moi, vraiment, je regrette quand je vois le deuxième. Bah de mon petit dernier là, ouais. comment il s'est passé, où là j'ai géré, mais vraiment j'ai géré de fou. Mais bon, après je me dis voilà, j'avais 16 ans, je me dis que bon, ça peut se comprendre, mais je regrette de pas être resté, de pas avoir pu faire comme j'ai fait là au petit dernier.
Bah oui, mais c'est bon, on va pas spoiler la suite de l'interview, mais je pense aussi que c'est un peu normal, quoi, tu vois, t'as 15 ouais. ans, même pas 16, enfin, à titre personnel, j'ai tourné de l'œil aussi, tu vois, alors que j'étais ouais. beaucoup plus vieux, hein. Donc ouais. C'est simplement trop d'émotions à gérer, il y a un moment donné où tu sens que ça va pas aller, et je pense qu'il vaut mieux sortir que de tomber dans les vapes à
ouais,
côté
c'est
de,
sûr, ouais.
de ta compagne qui est en train d'accoucher, quoi, tu vois.
Donc, ouais.
J'ai raté aussi, moi, la naissance de ma première fille, quoi, tellement j'étais
ouais.
submergé d'émotions, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est parce que je sais qu'à partir du moment où je suis sorti, ça allait mieux. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps entre le temps où je suis sorti et le temps où il a fallu que je rentre parce que la petite était là. J'ai pleuré, mais énormément. Quoi.
Et tu pleurais pourquoi? Parce que tu as la sensation que tu étais en train de rater ça?
Non, même pas ça. Plein d'émotions différentes. Le fait de me dire bon bah ça y est, c'est le moment. Le fait de, il y avait un peu de peur aussi. Je me souviens. Ça c'est. J'avais un peu peur parce que bah, je savais pas. Voilà, c'était le moment là, ce moment là que je redoutais. Quoi. Le moment où là on pouvait plus reculer, c'était là.
Ah, tu m'étonnes.
Donc, sur le coup, le moment où voilà, la panique, elle était là. C'est à ce moment là qu'elle était présente. Vraiment le moment où il y a plein de trucs qui se mélangent et voilà. Donc heureusement okay. que mes frères étaient là, heureusement que j'étais pas tout seul, parce que tout seul, ça m'aurait paru 20 fois plus long, mais là il y avait mes frères, mais ma mère, mon beau-père qui étaient là, et heureusement, parce que sans eux, je sais pas comment je m'en serais sorti à ce moment-là.
Ok. Ouais, donc tu rates la sortie
ouais.
de ton bébé, mais tu finis par revenir dans la salle d'accouchement, c'est ça? Tu vas comment ça se passe?
Ouais, en fait. Ouais, en fait, quand la petite est là, il y a ma mère qui revient en courant, pareil, et qui me dit bon bah ça y est, tu peux y aller. Donc bah je mets la blouse, je mets tout ce qu'il faut, et puis bah là j'y vais. Et quand on rentre, quand je rentre, pareil, un peu de mal à réaliser. Et bah à partir du moment où, alors je sais pas comment le dire, mais pareil, quand je rentre, du coup, je ne vois pas tout de suite, je la vois pas tout de suite. Et du coup, c'est quand je commence à vraiment approcher au-dessus de la tête de ma douce que là, bah que voilà, elle est là, et là, par contre, là, on oublie tout, là. On oublie tout, mais on oublie qu'on a que 15 ans, on oublie que, bah, après, il va falloir assumer, on oublie qu'on n'était pas bien il y a encore 30 secondes, et voilà, c'est que du bonheur, quoi.
Comment ça, donc, tu savais déjà que... Vous saviez que vous alliez avoir une fille, ou...
Oui, on savait que c'était une fille, ouais.
Ok. Comment ça se passe, la rencontre avec ta fille, alors?
Bah, elle était sur maman, donc moi un peu timide, moi au début, j'ose pas trop, et en fait les sages-femmes elles m'ont fait un peu participer à tout ce qui est après, quoi, l'intubation pour le nettoyage là, dans les narines, c'est horrible, ça, j'aime pas ça, mais elles m'ont fait un peu participer à tout ça, et voilà, le premier contact.
Elles t'ont fait participer au nettoyage des narines, c'est chaud.
Elles m'ont dit voilà, elles m'ont fait ça, elles m'ont montré, elles m'ont dit voilà, c'est comme ça, on fait ça pour ça.
Okay.
Et elles m'ont bien expliqué toutes les étapes et tout.
Ok.
Et après, c'est le premier contact, c'est là où elles me le donnent, elles me la donnent dans les bras. Et pareil, là, c'est juste magique, quoi. On a notre bébé, on a le. le fruit de nos entrailles qui est là et qui est là après encore pour de longues années et qu'on va devoir élever. Et mais à ce moment-là, on oublie tous les soucis, on pense à rien. Quoi. Mm-hmm. Je ne pense à rien.
Ok. Et bon, comment ça se passe la suite de ton aventure? Comment se passent les premiers jours avec ce nouveau bébé dans ta vie de gamin de 16 ans, quoi?
Alors à l'hôpital, ça allait. Ouais. Et après, c'est la première nuit à la maison chaotique. La nuit, je dors quasiment pas. Je me lève, j'allais faire le biberon de la nuit. J'étais à deux doigts de faire un biberon à l'eau du robinet.
Parce que vous viviez pas ensemble avec ta copine à l'époque.
On était installés chez ma mère, du coup.
Ok, d'accord.
Ouais. Donc du coup, la nuit, je suis à deux doigts de faire un biberon à l'eau du robinet, où bah, du coup j'ai un éclair quand même qui me dit mais c'est pas ce qu'il faut faire, réveille-toi. Une très très mauvaise nuit, et le lendemain, t'es invité à manger chez mon père. Et le lendemain, je me souviens, j'ai totalement craqué. Vraiment là, à ce moment-là, après la première nuit, je m'étais dit je n'y arriverai jamais, quoi. Mais ça, c'était, je pense que c'était un craquage dû à la fatigue de la nuit à l'hôpital et la mauvaise nuit qu'on avait passée la première nuit à la maison, où on a peu dormi et forcément on n'est pas habitué. Et gros craquage chez mon père où les vannes étaient ouvertes et où je me dis j'y arriverai pas, quoi. Et mon père était là à me dire mais si ça va aller, et ils ont su me rebooster, et finalement ça a été
qu'est-ce qui fait que comment dire, est-ce que c'est vraiment juste la nuit ou alors c'est la perspective de en fait je suis en train de me demander est-ce que l'arrivée de cet enfant, à quel point l'arrivée de cet enfant a changé le gamin de 15 ans en totalement. Adulte de 16 ans, quoi, tu vois, c'est ouf.
Elle l'a changé totalement, et je pense que c'est à partir du moment où, après ce craquage-là, où elle a encore plus changé le gamin de 16 ans en adulte, parce que c'est à partir de ce moment-là comme je disais tout à l'heure, c'était la mission, quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à chercher du travail.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
J'ai eu la chance de trouver relativement rapidement, et où on a fait confiance assez rapidement. Moi, j'ai travaillé dans les fenêtres au début, la meilleure école possible. Parce que les fenêtres, tu fais du phoning en prenant le nom d'un village dans l'annuaire, et puis tu appelles toutes les personnes possibles dans l'annuaire en leur proposant de changer leur fenêtre ou leur porte d'entrée, où tu te fais raccrocher au nez 8 fois sur 10.
Ouais.
Donc ça pendant 2 mois, et après le coup de bol qui arrive, donc les deux anciens de la boîte où j'avais été pris qui ont ouvert leur boîte à eux, et vu que j'avais fait deux premiers bons mois dans la société en tant qu'en contrat pro, les mecs m'ont dit ta situation elle est pas forcément évidente. Ce que je te propose, c'est un CDI, un salaire fixe, pas de commission, pas de tout ça. Et donc mon premier vrai boulot, c'est celui-là. Donc pareil, Le mec me fait confiance, il me propose un travail à 16 piges sans permis, où il fallait qu'il m'accompagne à chaque fois, où il fallait qu'on fasse tout ensemble parce que je pouvais pas être autonome totalement.
Waouh, c'est un chouette cadeau. Hein.
Un vrai premier salaire, un vrai premier salaire, parce que je gagnais plus que mon père, donc voilà. Ah ouais. Truc vraiment, situation où c'est dans des moments-là où on se dit, bon bah. La vie elle est incroyable parce que hein, je pense que dans 99% des cas quelqu'un dans mes situations il a pas cette chance là et donc voilà et ça dure pendant 2 ans.
Ok, enfin tu dis que quelqu'un dans ta situation il a pas cette chance là mais j'ai l'impression que t'as bossé quoi tu vois pour en arriver là
ouais bah c'est de toute façon c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était la mission, c'était il fallait que bah, quand j'ai eu mon premier boulot, c'était au culot, quoi. J'avais pas de CV. Sur mon CV, j'avais juste deux pauvres lignes. J'ai fait 6 mois en restauration. Et mon patron m'a conseillé d'être opticien. C'était vraiment pas fou, quoi.
T'as vraiment conseillé d'être opticien?
Ouais, il m'avait dit, faut que tu fasses un truc où tu vois des gens, mais... faut que tu sois opticien, il m'avait dit. Okay. Et quand je l'ai revu, parce que bah, du coup, je retournais dans... ce restaurant-là, quand je le revois, il parle toujours de ça. À chaque fois, il me dit ça. Il me dit, bah, il me demande si je suis devenu opticien. Alors, je lui dis non. Ouais, bah, j'y suis allé au culot. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un peu tout. J'avais fait les concessions automobiles, les fenêtres, tout ce qui pouvait se vendre ou sur les conseils de mon beau-père. Il m'avait dit, t'as pas forcément grande expérience. Il m'a dit, t'arrives là-bas, tu y vas avec ton culot et puis bah, tu vois si ça marche, quoi. Et ça a marché, du coup. Bah, la première phrase que j'ai dit au patron de l'entreprise dans laquelle j'avais été prise, c'était « je pars du principe où tout s'apprend
okay. ».
Parce qu'il m'avait dit bah, « t'as jamais vendu de fenêtre, t'as jamais fait ceci ouais, », j'avais répondu ça. Et il m'avait dit bah, « viens lundi, tu commences lundi », parce que c'est comme ça dans les boîtes comme ça. Ouais. Et t'as un commercial qui arrive le lundi, mais 3 qui sont repartis. Le mardi, t'en as 3 qui arrivent, 3 nouveaux qui arrivent. Ça tourne beaucoup. C'est des trucs okay. Pas forcément stable tout le temps, mais.
Et elle te vient d'où, tu penses, cette confiance en toi? Parce que 15 ans, te pointer comme ça face à un adulte et de lui dire « Dis donc, tout ça prend, mon gars, c'est pas mal culotté, quoi. »
Voilà, c'est pas de la confiance en soi, c'est du culot, parce que la confiance en moi, j'en avais pas spécialement. Je savais pas comment c'était fait une fenêtre, j'en savais rien, en fait. Je savais pas si c'était vraiment très technique ou pas. J'en savais rien, mais bah, il me fallait un boulot, il fallait que je travaille, il fallait que je gagne de l'argent. Pour nourrir ma fille, donc bah, ça venait surtout de là. Quoi.
C'est ta mission, quoi. C'est ta mission.
C'est ça.
Posez ouais, pas de questions.
Il n'y en avait pas à se poser. Hein. Moi, mon objectif principal, parce que bah, j'avais pas fait d'études approfondies, j'avais pas d'objectif de carrière précis de toute façon. Donc je m'étais dit, le premier truc qui viendra et on me proposera assez d'argent pour pouvoir nourrir ma fille. Je prends quoi, j'ai même pas le choix, je peux pas me permettre de choisir en fait.
Mmh. Et est-ce que 10 ans, donc là ça fait 10 ans, c'est ça?
C'est ça.
Est-ce que 10 ans plus tard, t'as des envies de te dire de reprendre des formations ou des études? Peut-être que tu en as fait déjà entre temps?
Du coup, c'est ce que j'ai fait, ouais. Okay. C'est ce que j'ai fait en 2016. Après avoir travaillé, du coup, j'avais fait de la fenêtre, du poêle à granuler quand c'était à la mode. Okay. J'avais eu un petit creux où j'avais été correspondant de presse dans le journal local.
Ah ouais.
Et aussi, okay. Ouais, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Hein,
t'as touché à tout, c'est fou.
Ouais. Et j'ai aussi été, je sais plus comment on appelle ça. En gros, j'étais chauffeur pour une petite fille handicapée qui avait okay. pas. En gros, j'allais la chercher à son domicile, je l'amenais à l'école et je faisais pareil le soir. Je faisais le chemin inverse le soir. Je faisais d'accord. ça tous les jours d'école. Et en fait, il y a un moment où ma conseillère, du coup, c'était à Pôle emploi. Mmh. Elle m'a dit, bah là, il y a un truc pour vous. En 9 mois, vous passez l'équivalent d'un bac pro commerce. Elle me dit, c'est juste le truc qui manque à votre CV pour que ça puisse après être plus facile. Et donc, bah voilà, j'ai fait ça. J'ai été pris. J'ai passé un entretien. J'ai été pris assez facilement parce que bah, j'avais déjà de l'expérience. Du coup, c'est ce qui m'a aidé sur le coup. Et j'ai fait une alternance là-bas où j'étais en même temps chez Volkswagen, donc dans la concession Volkswagen de ma ville.
Ok, d'accord. Et donc, tu as validé ton équivalent bac pro, c'est ça?
Voilà, je l'ai validé du coup en. Bah, c'était une formation, c'était ouais, une 8 mois, je crois, 8-9 mois. Je la valide pendant l'été 2016, en juillet. Je vais dire que j'ai tout fait, mais en fait, j'ai une opportunité de travailler dans un Micromania. Et ouais. Ben, du coup, comme je t'ai dit, je joue encore aux jeux vidéo. On m'a dit un remplacement à faire pendant l'été. Donc, bah, à 50 km de chez moi. Mais je dis, bon, bah, si ça me fait gagner de l'argent, j'y vais. Et du coup, je travaille à Micromania pendant un mois. Et en septembre, en septembre 2016, j'entre à l'association de commerçants dont je te parlais avant l'interview en tant qu'animateur commercial. Et on va dire que c'est à partir seulement de ce moment-là où je me dis, voilà, à partir de là, je peux me dire, bon, bah, je peux voir comment je peux évoluer après, voir vers quoi je peux me diriger, vers ce que je peux faire vraiment de ma vie.
En fait. Ouais. Ouais, parce que t'es tout jeune, hein. Même si t'as déjà 10 piges d'expérience professionnelle derrière toi, il y a plein de gens qui démarrent leur carrière à ton âge, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Ok, on va parler après de ton fiston qui est né il y a peu de temps là, mais ouais. Comment ça se passe toi entre temps avec cette fille que tu vois grandir qui est aujourd'hui pré-ado quoi?
Ouais, c'est ça. Oh là là, au bon cœur. Oh là là, attention. Ouais, ça se passe très bien. Elle est très facile à vivre. Je pense qu'on a beaucoup de chance de ce côté-là. C'est pas une enfant difficile. Vraiment, je sais pas. Tout se passe pour le mieux, il n'y a pas de problème. Pas de problème de santé. Vraiment, il n'y a pas d'obstacle. En fait, si c'est juste à nous, en fait, on se dit c'est juste à nous de réussir notre éducation, l'éducation qu'on veut lui donner. Donc l'éducation que moi j'ai eue et qui lui transmettre mes et nos valeurs. En fait, le moment qu'on redoutait plus et qu'on redoute encore, c'est ce moment-là bah, qui arrive, le moment où elle va commencer à changer, quoi, le moment de l'adolescence. Mm-hmm. Mais sinon, de zéro à là, bah, même là, encore je dis ça, mais elle est pas. Là, elle fait ses petites crises de pré-ado. Voilà, très facile à vivre, pas de difficultés particulières, elle travaille bien à l'école, elle est sérieuse, c'est un amour d'enfant.
C'est quoi, tu disais, les valeurs que tu as envie de lui inculquer
Bah, les valeurs que j'ai eues moi, parce qu'on vient tous les deux, ma conjointe et moi, de familles plus que modestes, on va dire. Même si mon père a toujours travaillé... Il s'est tué la santé pour gagner jamais grand chose, mais toujours nous apprendre que bah, l'important c'est peut-être pas forcément ça, l'important c'est de s'aimer, c'est de partager ce qu'on a à partager, même si on n'en a pas beaucoup, et d'avoir du respect envers tout le monde, de faire de différence envers personne, que tout le monde est égal. Et voilà, c'est les principes de base pour moi, c'est tout bête, mais des principes qui sont importants et savoir surtout d'où on vient, de pas oublier, même si on devient millionnaire, et ben faut pas oublier que quand j'étais petit, j'étais une fois chez ma mère, une fois chez mon père, et puis on mangeait des boîtes de cassoulet le soir, quoi. Voilà, il y a pas de c'était pas la grande vie, mais c'était la belle vie parce qu'on était ensemble et qu'il y avait de l'amour et du respect. Il n'y avait pas de envers nos parents, avec mes frères, il n'y avait pas de dispute parce que on savait ce qu'ils faisaient pour nous et on en était reconnaissant. Et voilà, c'était les valeurs de respect, de pas de discrimination et surtout, comme je dis, c'est de pas oublier d'où on vient. Même si la situation elle peut changer à n'importe quel moment, elle peut changer dans les deux sens et c'est pour ça qu'il faut garder les pieds sur terre et de pas prendre la grosse tête, même si on en a l'occasion, on va dire.
Tu dis c'est tout simple, t'as raison, c'est tout simple, mais je pense que si c'était un peu plus partagé, le monde tournerait un peu mieux aujourd'hui. Parlons de ton fiston, parce que oui. Entre-temps, vous n'êtes pas dit, tiens, on va faire un petit deuxième dans la foulée, quoi.
Non, pas dans la foulée, parce qu'on savait qu'on était déjà jeunes pour avoir la première, donc on s'est dit, on va pas. On voulait pas. Pas refaire un trop vite, parce que du coup, on se voulait laisser le temps de chacun retrouver une activité professionnelle, de s'offrir une situation, en fait. D'avoir un emploi stable, d'avoir un logement, de pas se précipiter en faire un deuxième. C'est bête à dire, mais on voulait une situation avant de refaire le deuxième.
Mmh. Ta chérie, tu disais tout à l'heure, elle bosse en boulangerie, c'est ça aujourd'hui ?
Ouais, elle bosse en boulangerie dans une franchise, une grosse franchise. Du coup, voilà, elle a repris le boulot. Alors, elle a mis un peu de temps à retravailler, parce qu'après, avec la grossesse, elle est beaucoup restée à la maison, c'est moi qui travaillais. Et voilà, au fil du temps, ça peut se comprendre largement. Elle avait un peu perdu confiance en elle. Mmh. Et en 2017, voilà, elle a osé envoyer son CV dans cette boulangerie, justement, qui m'ont fait passer des tests. Elle a repris tout de suite, elle a repris le rythme très rapidement, sans aucun problème. Et du coup, ça fait un boss en boulangerie, là,
okay.
Et 4 ans bientôt.
Ah, tu disais, elle a pas du tout travaillé entre-temps, c'est ça ? Entre
ouais.
Ok, d'accord.
Ouais, parce que aussi, moi, je partais du principe où c'est le gros macho... C'est l'homme qui travaille à la maison. C'est moi qui ramène l'argent. Mais voilà, après, le truc, c'est que elle avait envie d'avoir sa vie de femme et de travailler. Donc après, ça peut se comprendre. Mais du coup, il fallait qu'elle franchisse le cap, et elle l'a fait. Elle a réussi one shot. Hein, elle a réussi du premier coup. Mm-hmm.
Ça te vient d'où, tu crois, ce truc de « c'est à moi, l'homme, d'aller chasser le mammouth », tu vois?
Vraiment, je sais pas. Je crois que c'était une image que je m'étais faite. Je m'étais accrédité une virilité que j'ai pas forcément. Mais je sais pas vraiment. Je saurais pas te dire.
T'avais la sensation que c'était ta mission à toi, c'est ça peut-être?
Ouais, voilà, c'est ça. Ça doit être ça.
Vous avez fait un petit deuxième?
Un petit deuxième,
un petit fiston.
Ouais, qui est né le petit fiston, voilà, le choix du roi, un garçon, une fille. du coup, qui est né en mars 2019.
Donc, et là, cette fois-ci, c'était une envie de votre part qui était partagée.
Alors, c'était pas. C'est bête ce que je vais dire, c'était pas une envie. Mais d'un autre côté, on ne faisait pas ce qu'il fallait non plus pour nous protéger.
En termes de contraception.
Fait. Ouais, voilà. Donc,
tu n'avais pas appris de la première fois, donc, c'est ça.
Donc voilà, c'était pas une envie, mais c'était le bon moment, parce que elle avait repris le travail. Donc en fait, on avait ce qu'on voulait. On avait le logement, la situation, la voiture, là. On avait l'environnement propice à recevoir un petit bébé. Et anecdote incroyable, le jour où elle me l'a annoncé, la demi-finale de Coupe du Monde en France-Belgique.
Ah.
Voilà. Donc double récompense ce jour-là.
Désolé les copains belges, on vous a battu.
Ouais. Vous avez eu la possession, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais du coup, voilà, et là, par contre, la réaction, elle était un peu incroyable, parce qu'elle sort de la salle de bain avec le test de grossesse, les yeux un peu mouillés. Et voilà, quoi, elle avait fait le test un peu au hasard ce jour-là, parce que elle le sentait, en fait, et voilà. Là, c'est incroyable, j'appelle tout le monde tout de suite, voilà, elle est enceinte, mes frères, mon meilleur ami, c'était la folie, là.
Comment ça se passe 10 ans après la première fois ?
Ça se passe qu'au final, on a un peu tout oublié, que ce soit même l'étape de la grossesse, où finalement, mis à part les petits détails de ce que je disais tout à l'heure, donc les envies au niveau des envies de madame et de son caprice des chips au fromage, on a un peu tout oublié de comment ça se passait une grossesse, et on réapprend, on se réadapte, donc c'est vraiment c'est tout nouveau pour eux. C'est une nouvelle. En fait, c'est. Comment dire, c'est comme si on avait eu deux enfants uniques, quoi. C'est vraiment totalement différent. On a tout oublié. Ben, moi, personnellement, j'avais tout oublié. Donc, ben, il a fallu réapprendre à revivre ces moments-là.
Est-ce que tu as la sensation que tu avais oublié aussi? Parce que peut-être à 15 ans, c'était pas forcément évident d'appréhender tout ça, non? C'est peut-être plus simple quand on a 25 ou 26.
Oui, bah c'est plus simple. On le prend avec. Je l'ai pris avec beaucoup plus de légèreté, dans le sens où la situation, je l'avais déjà, donc j'avais plus cette pression, on va dire, de devoir absolument trouver un travail, de devoir absolument trouver de l'argent, que ce soit un peu partout. C'est là, on l'aborde beaucoup plus légèrement, en se disant on va avoir besoin de ça, mais on va pouvoir se le permettre sans galérer, en fait. Donc c'est beaucoup plus de légèreté et beaucoup moins de pression par rapport à ça.
Ok. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un petit fiston?
Quand on a su que c'était un garçon, je pleure beaucoup malgré tout. Hein. quand on a su que c'était un garçon, la dame à l'échographie qui nous dit je vous ai pas dit c'est un garçon. Hein. On nous a dit qu'il y a un truc qui pend. Et là, forcément, on comprend tout de suite. Et j'explose. Là, même si une fille, ça aurait été génial, mais là, d'avoir en plus un petit garçon, c'est juste incroyable. Je pense que tout papa, au fond de lui, il a envie d'avoir un garçon un jour. C'est un petit garçon, c'est fou. C'est fou.
Ok. Comment ça se passe, la grossesse? Ça passe bien?
Alors, la grossesse, ça se passe relativement bien, un peu plus malade que la première. Donc, une infection aussi, à un moment, une infection urinaire. Rien de plus, mais elle se passe bien dans la globalité. Sur la fin, un peu compliqué parce que beaucoup de douleurs, des difficultés à dormir parce que toutes les positions sont douloureuses. Donc, nous, à notre place d'homme, on ne peut pas faire grand-chose. On essaye de faire ce qu'on peut, mais on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je pense que c'est l'aspect le plus compliqué de la chose, de se dire, elle a mal, mais malheureusement, on ne peut rien faire. c'est le plus frustrant, je pense, dans tout ça.
D'accord. Et l'accouchement, alors, tout à l'heure, tu disais que ça s'était passé de façon plus, peut-être, sereine pour toi?
Une lettre à la poste, hein, c'est une formalité.
pour toi, hein, enfin pour nous. Hein,
oui. vraiment.
Sans vous, on serait pané, oui. D'accord, déjà de base. Vrai. Donc voilà.
Mais pareil, l'attente à l'hôpital dans la chambre qui est assez longue. Et sur les coups de 22h, donc le 7 mars 2019, les contractions, donc là on était déjà à l'hôpital à ce moment-là, parce qu'elle avait, eu la sensation de perdre du liquide plutôt dans la journée. Donc par réflexe, on s'était dit, on va aller voir à l'hôpital, on sait jamais, peut-être la poche, elle s'est fissurée, on sait pas. On avait envisagé toutes les possibilités. Tout était déjà dans le coffre de la voiture, le sac allongé, tout était prêt, on était au taquet. Et il s'avérait que la poche s'était fissurée, qu'en plus on avait bien fait de venir parce qu'ils l'ont percé, tous les détails là, Et des douleurs vers 22h, les contractions qui commencent à être vraiment très, très rapprochées et beaucoup plus douloureuses. Et là, j'y suis allé pas au bluff, hein, mais je lui ai dit fais ceci, fais cela, tout ça, et ça a marché. J'ai donné des techniques un peu comme on voit dans les films. Il faut que tu inspires à ce moment-là, que tu expires. J'étais pas sûr de moi, mais ça a marché. Et je sais pas si je peux raconter ça. En fait, on était dans la salle de travail. On était seul parce que les infirmières, elles faisaient leurs allers-retours, elles venaient voir de temps en temps si ça avait progressé ou pas. Et à un moment, une contraction, là, elle me dit là, il se passe quelque chose. Et mon premier réflexe, ça n'a pas été d'appeler les infirmières en appuyant sur le petit bouton rouge. J'ai soulevé le drap. Et en fait, oui, il se passait quelque chose, là, parce qu'il y avait une tête qui arrivait, finalement, en fait. Et donc, là, tout de suite, on appelle les infirmières. Et là, j'ai regardé, j'étais là, j'étais présent, j'ai tout vu. J'ai pas pu couper le cordon parce qu'il était enroulé autour du cou, malheureusement. Mais
oui, donc, j'ai tout vu. T'as regardé en face, c'est ça?
Là, clairement, j'ai regardé en face.
Tu fais partie de ces mecs.
Là, j'ai regardé en face parce que...
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Gillian? Pourquoi tu fais ça? C'est une vraie question que je me pose et c'est pas... je te juge pas, tu vois, mais je me dis juste, c'est quoi ta motivation à ce moment-là?
Ma motivation, c'est curiosité. De prendre ma tête, curiosité, et je me dis, je l'ai pas fait pour Alicia, donc qui est le prénom de ma fille. Il faut que je le fasse pour le petit loulou, faut que je le fasse, il faut que j'aille au bout, il faut que je sois fort. Et en fait, ça a été, en deux poussées, c'était fini, ça a été très rapide, ça s'est super bien passé.
Ah oui, donc toi, tu passes de comme j'ai raté la sortie, je vais décider de mettre juste en face pour pouvoir accueillir l'enfant, quoi. T'es un warrior, mon gars. C'est tout ou rien, le gars. Il est comme ça. Mais peut-être un juste milieu, mais bon, je comprends que t'aies envie.
Mais du coup, ça a été, ça s'est très bien passé. Et pareil, là, elle pose le petit sur ma douce, et pareil, une fois de plus, je pleure de joie, d'excitation, de tout. Et par contre, le moment de critique, c'est quand il faut mettre le body. Alors que l'enfant est sorti depuis quelques heures, et que on a l'impression de le casser à tout moment dans les manipulations. Et là, c'était à ce moment-là, pas de doute, mais c'est vrai que c'est comme ça, en fait. C'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas être trop brutal, il ne faut pas avoir peur de le casser à tout moment.
T'avais un peu oublié ça, c'est ça? Ou peut-être tu l'avais fait quand t'avais 15-16 ans?
Si, je le faisais, mais ça, clairement, ouais, c'était oublié. Hein. Je savais qu'un bébé, c'était fragile, mais vraiment, là, c'était... je me disais, à tout moment, je bouge son bras, il peut me rester dans les mains. Quoi. Mais après, quand on voit les sages-femmes faire les tripoter dans tous les sens, les manipuler, on se dit, on peut oser quand même un petit peu. Ouais, ouais. C'est pas... Mais après, ça a été mieux avec les semaines qui passaient. Mais
c'est plus élastique au début, qu'on pense.
Ouais, voilà, c'est ça. On peut tirer dessus, on peut. C'est pas.
Très bien. Comment ça se passe la vie avec deux enfants?
On a la chance que la grande soit assez grande, donc elle est 10 ans.
Elle est très autonome, donc, quoi.
Elle est relativement autonome, il n'y a pas de jalousie, parce qu'elle sait que c'est un bébé, elle est en âge de comprendre que il faut qu'on passe un peu plus de temps avec lui, parce qu'il faut s'en occuper à temps complet. Tout en, bien sûr, en essayant de pas la mettre de côté, elle, parce que faut aussi penser à elle et pas se dire que elle est autonome, elle a pas besoin de nous. Mais le plus difficile, c'était peut-être ça, c'est de trouver le juste milieu pour frustrer aucun des deux, et surtout la grande, parce que le petit, on est vraiment toujours au petit soin avec lui. Donc là, maintenant, il a un an et quelques, donc il fait sa vie, il marche, mais je pense que le plus dur, ça a été ça, de pas laisser de côté la plus grande, pour pas qu'elle se sente abandonnée à ce moment-là.
D'accord. Tu m'as dit aussi que tu en avais profité pour arrêter de travailler pendant cette période-là, c'est ça, pour t'occuper de ton fiston?
Ouais, en fait, quand mon fils est né, donc j'ai eu mes 10 jours de congé, et en fait, en revenant de mes congés, j'ai annoncé à mon patron que je voulais une rupture conventionnelle pour arrêter de travailler, pour m'occuper du petit. Donc il a été accepté tout de suite, j'ai eu un gros préavis. De mars à août, j'ai travaillé, et après j'ai totalement arrêté de août à février. En fait, en février, j'ai une offre qui ne se refusait pas pour du travail. Pendant tout ce temps-là, je me suis occupé de lui à la maison. Je suis resté à la maison pour m'occuper de lui et de sa sœur, du coup, quand elle n'était pas à l'école et que maman travaillait.
C'était une volonté de ta part. Là, pour le coup, le macho qui doit à tout prix ramener de l'argent, il en a pris un coup dans le bec. Hein.
Ouais, oui, oui. Là, on fait moins le malin. Voilà. Non, mais ouais, c'était une volonté de ma part parce que j'ai estimé avoir peut-être perdu un peu de temps avec les petites quand j'ai travaillé dans les fenêtres où j'étais pas souvent là parce que c'était des horaires assez contraignants. Du coup, là, je me suis dit, pareil, en fait, faut que j'essaye de profiter d'eux au max. C'était une volonté de ma part et nos calculs nous disaient on peut se permettre de le faire, donc on l'a fait.
D'accord. T'en as retiré quoi en tant que papa ?
En tant que papa ? Ouais. Bah, cuire un bébé, c'est fatigant. non, que ce que j'en ai retiré. Alors, je sais pas comment trop dire ça.
Dis-le avec tes mots, ça ira bien.
Il faut que je réussisse parce que finalement, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Mais c'est un peu bizarre parce qu'un bébé, là je dis que c'est fatigant, mais un bébé ça dort beaucoup.
Ouais.
Donc des fois on a pareil un peu l'impression d'être pas inutile, mais au tout début, quand ça jusqu'à, on va dire, peut-être une bêtise, 6 mois, ça dort beaucoup. Et j'ai l'impression d'avoir repris le travail que quand il commençait à s'éveiller vraiment et tout ça, mais j'étais fier de moi d'être à la maison, de dire à ma femme la nuit quand il fallait se lever, de lui dire non, ne te réveille pas, tu vas pas, parce que je suis levé souvent à 4h du matin pour aller au travail. Donc j'en ai retiré un peu de. J'étais fier de moi parce que je me pensais peut-être pas capable de faire ça, mais j'étais content de le faire et de soulager madame aussi au maximum, de l'aider à ce que elle, son travail, sa reprise du boulot se passe bien aussi.
Ok. Comment ça se passe aujourd'hui ?
Oh bah, très bien. Ouais. Je l'entends. Il n'a pas l'air content, mais non, ça se passe très bien. Il commence à marcher. Il nous a fait un petit coup de frayeur quand il était tout bébé. Il a une méningite. Il a été hospitalisé un mois, mais on l'a mis à l'hôpital à temps, a priori. Ça a été coupé très vite. Il a été à l'hôpital un mois à sa naissance et quasiment.
Et, tu dis ça comme là, si depuis... tu dis ça comme si de rien n'était, mais ça doit être bizarre.
En fait, ouais, il avait un mois et c'était on va dire que vraiment le plus dur, ça a été les premiers jours pendant quasiment une semaine et demie où en fait. Il savait pas nous dire vraiment ce qu'il avait, il savait pas vraiment nous dire si ça allait mieux ou pas. Et c'était vraiment ces jours-là les plus durs où on dormait pas la nuit parce que on savait pas ce qu'il avait, on était à l'hôpital tous les jours, tout le temps, on se relayait. Mais à partir du moment où ils nous ont dit ça va mieux, ça va aller, là juste il est en traitement, il va sortir dans 3 semaines, et qu'il était sorti d'affaire, ça allait. C'était la contrainte surtout d'aller à l'hôpital, d'être à l'hôpital et de pas pouvoir profiter de lui à la maison.
Vous avez eu peur pour sa vie ?
Ouais, au début oui, parce qu'en fait vraiment les 3-4 premiers jours, on savait vraiment pas où ça en était. Ce qui nous rassurait un minimum, c'était que physiquement il allait bien, il n'était pas amorphe, il n'était pas dans le j'ai une expression de chez moi, dans le coltard, il n'était pas amorphe, il allait bien physiquement, donc c'est ce qui nous rassurait le plus. Mais après il y avait tout à côté, les perfusions à la tête, tout ça, c'était le plus dur ça.
Ok. Tu l'as vécu comment, toi ?
Moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je faisais, pour le coup, là, je faisais comme si tout allait bien. Donc, j'essayais d'être le maillon fort pour rassurer ma douce et qu'on ne soit pas tous les deux à pleurer toutes les larmes de nos corps. Donc, j'essayais de rester fort au maximum, mais... C'était dur, c'était une situation inédite. Et malgré tout, c'est notre enfant, donc on se dit que même si ça faisait qu'un mois qu'il était là, on voyait pas comment on pouvait vivre sans après. Mm-hmm. Donc, on pense à plein de choses comme ça, c'est très bête parce que on se dit que c'était prématuré, mais. On pense à tout ça parce que dans une situation comme ça de méningite ou des choses comme ça, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, les infirmières qui savent pas nous dire il va bien, il va pas bien, c'est pas facile.
Mais, t'as réussi à rester fort?
J'ai réussi, je pense, dans l'ensemble à rester fort, à essayer de rassurer madame au maximum, parce qu'elle était vraiment pas bien.
Ouais.
Mais je pense que c'était important. Voilà, c'était une autre mission de rester fort pour pas démoraliser encore plus madame, pour pas amener une onde négative supplémentaire. J'essaie de rester positif au maximum, comme toujours, et voilà.
Tu viens de redire que c'était une mission pour toi, tu vois. J'ai l'impression que t'es un peu un mec de mission, quoi.
Je suis un mec de mission, ouais. Non, mais c'était important de... Peut-être pas de grossir les choses, mais... Il y a des choses importantes et faut se donner des objectifs et essayer de se motiver au maximum pour y arriver. Et là, c'en était une, c'était de se dire bah si tu craques, il n'y a plus personne qui sera fort dans l'histoire. Donc bah il faut quand même au minimum qu'il y en ait un des deux qui aide le soi pour soutenir l'autre.
Ouais,
et bah, là, il fallait que ce soit moi.
Ok. J'ai une dernière mission pour toi, Gillian. Parce que
ouais.
T'es un mec de mission. Si t'écoutes Histoire de Daron, tu disais que t'écoutais de temps en temps. Tu sais qu'à la fin, je pose une question. Qu'est-ce que tu dirais, imagine tes enfants, ils tombent sur ce podcast dans 10 ans.
Ouais.
Donc ça veut dire que ta fille aura 20 ans, mon vieux.
Ouais.
Est-ce que t'es prêt? Non, moi non plus.
Faut pas dire ce genre de choses.
Je sais, voilà, c'est des choses. Ceci dit, toi, t'auras que 36 ans et ça aussi, c'est bizarre, tu vois, de le dire.
Ouais.
Et ton petit Léo aura 10-11 ans. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire?
Bah, j'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils se fassent confiance dans la vie. Faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils se donnent les moyens de le faire, surtout. Et aussi que bon, c'est pas parce que moi j'étais un papa à 16 ans qu'il faut qu'il soit papa à 16 ans ou papa ou maman à 16 ans aussi, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs, mais moi je le serais pas, voilà. La mauvaise foi incarnée, voilà. Non,
n'oubliez pas les enfants, la contraception, c'est important.
Ouais, non, mais puis après, bah, tout ce qu'ils savent déjà, que je les aime et tout, toutes ces choses-là, mais pour moi, le plus important, c'est de se faire confiance dans la vie, même quand on n'a pas confiance en soi, faut y aller, faut essayer au maximum de faire tout ce qu'on peut pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Et il y a forcément un moment où ça marchera. Et que bah, dans la vie, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Et il y a toujours des choses qui nous le rappellent. Et bah, moi, j'ai deux choses à la maison qui me rappellent tous les jours que ma vie est belle.
Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au Gillian de 16 ans qui apprend, ou de 15 ans justement, qui apprend qu'il va être papa?
Oula, mais je sais pas. Je lui dirais, qu'est-ce que je lui dirais? Vraiment, c'est une question piège, ça. Hein. Je lui dirais que d'y aller au culot, ça marche, donc continue. C'est, vas-y, tente ta chance et ça te sourira forcément à un moment. Vraiment, je sais pas. Comme j'ai tout fait toujours comme ça, je me dis que c'est ce qui marche, mais peut-être pas, ça me réussira peut-être pas toute ma vie. Mais
bah, jusqu'ici, ça a plutôt l'air de...
Jusqu'ici, voilà. Juste trois mots, alors tente ta chance. Et voilà, ça ira.
Bon, merci beaucoup, Gillian, c'était super.
Ben, merci à toi.
C'était trop bien, vraiment. Merci pour ton récit. Je te souhaite tout le meilleur. Je sais pas ce qui se passe, mais je te souhaite tout le meilleur. Et puis, bah, je te dis à bientôt.
Bah merci à toi. Salut. Aussi. Bonne continuation et puis à bientôt.
Merci bien.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque là. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.